L'Épître aux Hébreux, chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est la base de la foi, concrètement en nous, une ferme assurance, et cette confiance en Dieu qui nous amène, par la révélation, à considérer les choses comme elles le sont vraiment, et ne pas s'arrêter à l'aspect physique, à l'aspect visuel, de telle manière que bien, nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, mais physiquement, nous ne le voyons pas. C'est quelque chose qui nous est révélé au travers de la parole. Et donc la foi est en amont dans bien des domaines de notre vie. Et parce que nous avons la foi en Dieu, la confiance en Dieu, eh bien, ensuite, elle va nous permettre de diriger notre vie comme il le faut. La confiance en Dieu nous amène à prendre des décisions. La confiance en Dieu nous amène à faire des choix. Alors, on le voit au travers du chapitre 11, et on va lire juste quelques bribes. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice, plus excellent que celui de Caïn. Parce qu'Abel avait compris la notion du sacrifice, la valeur du sacrifice. C'est par la foi, verset 5, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et la foi nous amène jusque dans ce domaine de la confiance en Dieu, de la résurrection, de la vie éternelle. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Ça veut dire que la foi est devenue très concrète dans sa vie, à tel point qu'aujourd'hui on en parle encore de ce que Noé a fait, de l'arche de Noé. On essaie même de la retrouver dans les montagnes du côté du nord de la Turquie et de l'Irak. Voilà. Mais il a construit sa vie sur la base de cette confiance qu'il avait dans la parole qui lui a été adressée venant de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Autrement dit, on ne peut pas prendre des décisions pareilles si, au préalable, on n'a pas une confiance forte en ce Dieu qui s'adresse à nous. On continue, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ce n'est pas embelli, il n'est pas mentionné qu'elle a ri, et que, quelque part, elle est imparfaite. Le but n'est pas d'embellir, le but c'est de montrer que, au-delà de nos faiblesses, si on est capable de faire confiance en Dieu, on va vivre la bénédiction de Dieu. Même si nous sommes faibles, fragiles, et si nous commettons des erreurs chemin faisant. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Et la confiance en Dieu nous amène à porter notre regard sur notre existence ici-bas. Désormais, nous avons une perspective d'avenir éternel, de telle manière que les points d'ancrage les plus importants sont dans la dimension éternelle. Et si sur la terre nous avons une vie heureuse, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, et nombreux sont ceux qui n'ont pas une vie forcément heureuse, eh bien le Seigneur met en nous l'espérance d'une vie nouvelle, dans sa présence, dans le royaume de Dieu là-haut. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Et la foi nous amène à faire cet acte-là de sacrifice. Je te donne ma vie. Abraham donne la vie de son fils. Je te donne ce que j'ai de plus cher. Ma confiance en Dieu ne se limite pas à formuler des demandes et avoir des réponses et des bénédictions, mais ce sont des décisions que je prends. Je m'engage à marcher avec toi. Je m'engage à te suivre, même si ça me coûte, si je ne suis pas sûr de ce que cela va donner. Par exemple, de ma famille, va-t-elle suivre à la même vitesse que moi? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça va être une position plus difficile à tenir. C'est par la foi qu'Isaac, verset 20, bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. La confiance en Dieu m'amène à bénir, à faire du bien autour de moi, auprès de ceux qui s'approchent, et particulièrement de notre propre famille. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Même à l'extrémité de notre vie, la foi nous amène, la confiance en Dieu nous amène à des positions de bénédiction et de distribution de bénédiction. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Voilà. Et toujours la foi en Dieu nous amène à porter un regard sur l'avenir, sur ce que Dieu dit et qu'il fera, sur ce que nous espérons et que nous vivrons. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'était dangereux. C'était un risque important qu'ils ont pris. Mais ils l'ont pris sur la base de la confiance en Dieu. Et quant à ce qui concerne nos enfants, eh bien, la confiance en Dieu pourrait paraître être un risque. Dans ce sens où je ne m'occupe pas des choses moi-même directement, mais Seigneur, je les remets entre tes mains et je te demande à toi d'agir. Le risque, c'est que je ne fasse rien, mais en fait, c'est quelque chose qui me déstabilise un petit peu, qui me dérange. Mais en fait, c'est le meilleur moyen pour qu'eux soient bénis. Parce que quand Dieu va les bénir, ils seront bénis beaucoup plus et beaucoup mieux que si c'était moi qui agissais et qui les bénissais. Et on le voit avec Moïse. L'avenir de la vie de Moïse est, comment dire, c'est disproportionnel par rapport à ce qu'auraient pu faire ses parents pour le cacher. Peut-être que bien caché, Moïse, devenu grand, aurait pu passer à peu près inaperçu parmi le peuple. Mais remis entre les mains de Dieu, ça c'était le risque au départ, eh bien Moïse devient grand, mais c'est le plus grand en Égypte. Et c'est par lui que Dieu délivrera son peuple. Donc il y a toujours un avantage indéniable à remettre tout, et particulièrement la vie de nos enfants, entre les mains de Dieu. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Alors on se rappelle des détails, ça n'a pas été simple. Néanmoins, ils ont quand même traversé. Voilà. Et ce que Dieu veut regarder dans nos vies, ce ne sont pas nos aléas, on en a tous des hauts et des bas. C'est qu'il ouvre le chemin et il nous dit, malgré les murmures, et c'est bien qu'ils s'arrêtent les murmures, que je dis que c'est bien qu'ils s'arrêtent, c'est parce que comme pour le peuple d'Israël, au bout d'un moment, ils ne se sont pas arrêtés, le Seigneur a dit, bon, ben, cette génération ne rentrera pas en Canaan. C'est pour ça qu'il est bien que les murmures s'arrêtent au bout d'un moment. Parce que sinon, on pourrait hypothéquer quelque part l'avenir de bénédiction que Dieu veut nous donner. Néanmoins, il murmure, mais Dieu ouvre le chemin du salut et de la bénédiction. Et ils vont passer au travers de la mer Rouge. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et là aussi, c'est quelque chose de particulier. On ne peut pas expliquer le lien, autre que spirituel, entre ce que fait le peuple et le résultat. Ils ne font que tourner autour, et d'aucuns diront, ils tournent en rond de Jéricho, et le résultat, c'est que les murailles tombent. Verset 32, et que dirais-je encore? Alors, ce que je voulais qu'on puisse regarder avec ce rappel, c'est que la confiance en Dieu, la foi, nous amène, par exemple, à supporter des difficultés, y compris d'ordre familial parfois. Et ça, c'est quelque chose de particulier que le Seigneur va nous aider à vivre, parce qu'il le sait très bien lui-même, que au sein de la famille, ce n'est pas toujours un havre de paix. Jésus se rappelle les conversations qu'il y a eues avec ses frères et sœurs, et notamment au moment où il commence son ministère, il ne croit pas en lui. Et au moment où il termine son ministère sur la terre, il n'y a plus personne à la croix. Et les dernières paroles, c'était des paroles plutôt d'ironie et de provocation. Voilà. Mais, comment dire, j'allais dire, le Seigneur fait confiance forcément. Mais la confiance dans l'œuvre et l'efficacité de la croix est telle qu'on va supporter les oppositions, l'ironie, et les difficultés d'un temps momentané, d'un temps présent, d'un temps limité, parce que la finalité, ça va être la conversion. Et le jour de la Pentecôte et les jours qui précèdent, finalement, quelque chose s'est passé dans leur vie à ses frères et sœurs, et ils sont là avec Marie, en train de prier. Ma part, dans la confiance en Dieu, ce ne sera pas simplement de vivre que de grands miracles, mais ce sera aussi de supporter des difficultés et de vaincre, parce que celui qui qui avance en comptant sur Dieu verra l'intervention de Dieu se manifester au moment opportun. La confiance en Dieu nous amène à nous fortifier et à agir d'une manière particulière. Dans le livre de la Genèse, on réalise que Joseph, à cause de la confiance qu'il avait en Dieu, a tenu bon. Pendant les moments difficiles que lui faisaient traverser dans un premier temps ses frères, et ensuite les lieux, les personnes, les situations qu'il a rencontrées et qu'il a même subies. Mais sa confiance en Dieu, non seulement l'a amené à comprendre au bout d'un certain temps que c'était le plan de Dieu pour sauver les siens, d'une part, que d'être amené en Égypte, et l'a amené à trouver grâce à un moment donné, aux yeux de tout le monde. Alors qu'auparavant, il avait été sali, il avait été moqué, et on avait essayé de se débarrasser de lui. Ce qui veut dire que quand on fait confiance en Dieu, la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu se manifestent en second temps, dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il faut tenir bon. Et dans un deuxième temps, Dieu justifie. C'est comme ça. Mais dans un premier temps, il faut tenir bon. Et on tient bon parce qu'on sait en qui on croit, on sait sur qui on peut compter. Et on ne le sait pas intellectuellement, on le sait parce que ça nous est dit par la parole, révélé par l'Esprit, et surtout parce que nous voyons que le Seigneur est passé par des moments comme cela aussi. Voilà. La confiance en Dieu va nous amener à faire du bien, alors que humainement parlant, on aurait une tendance naturelle à faire autre chose que du bien. Voilà. Je ne veux pas dire forcément du mal, mais des fois, on a envie de rien faire, tout simplement. Parce qu'on se dit, bon, mais ça ne sert à rien, les gens ne le méritent pas, ils ne m'écoutent pas, etc. Donc, on ne fait rien. C'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Joseph est oublié pendant 2 ans. Il fait du bien. Il continue. Ça a duré 2 ans. Je suis sûr que si ça avait duré 3 ans, 4 ans, on retrouvait Joseph 3 ans plus tard comme les 2 premières années. Et 4 ans plus tard comme les 2 ou 3 premières années. Parce qu'il y a dans la foi, dans la confiance en Dieu, une constante, une nature qui se manifeste en nous et qui nous amène, parce qu'on ne peut pas finalement faire autrement que de faire du bien. Celui qui fait confiance en Dieu, il ne peut que faire du bien autour de lui. Même si la situation n'est pas favorable et ce qu'il subit est difficile. Daniel a résolu de ne pas se souiller et il va faire du bien tout au long de sa vie. Vous lisez Daniel, on en connaît quand même pas mal de choses de la vie de Daniel. Moi je me dis, s'il y a des hommes sur la terre qui ont atteint la perfection, peut-être que Daniel peut être dedans. Mais lui, il ne peut pas le dire, ce serait de l'orgueil. C'est les autres qui vont le dire. Mais de la vie de Daniel, que nous connaissons au travers du livre, je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans la vie de Daniel. Et pourtant, il est jeune homme, amené en déportation, en captivité. Ça veut dire que dès le départ de sa vie, il est marqué au fer rouge. Il ne reviendra jamais dans son pays. La situation était tellement compliqué que il va pas fonder de famille, il va rester seul et célibataire toute sa vie. On ne le voit pas, en tout cas ça n'apparaît pas, être aigri comme ayant gâché sa vie, et on n'en a qu'une. Quand il subit les injustices, on ne le voit pas partir en guerre et se mettre en colère. C'est pas qu'il accepte, c'est que sa confiance l'amène à rester serein, à rester fort. Ça va être rude. Et à la fin de sa vie, on retrouve Daniel comme au début de sa vie. Une constante dans la vie de cet homme, à faire du bien. La Bible nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La confiance en Dieu nous amène à agir spirituellement parlant. C'est-à-dire qu'on va se mettre à prier, on va se mettre à jeûner. Et des choses vont changer, parce qu'on prend position spirituellement parlant. Durant ces quelques jours, un des responsables me disait, il y a des jeunes, il y en a un, il était épileptique, il est venu à la prière, il n'a plus fait de toute la semaine aucune crise d'épilepsie. La guérison de Dieu, la bénédiction de Dieu. Il dit d'autres, été possédés, ils ont été délivrés. Mais c'est la confiance en Dieu qui nous amène au bout d'un moment à prier et à dire, bon, mais maintenant, que le Seigneur te guérisse. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Maintenant, cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Sors. Mais ça ne sert à rien de crier. Il faut simplement le dire avec affirmation, avec conviction et force, dans ce sens où il ne peut pas en être autrement à cause de la victoire de Jésus à la croix. Toi qui es là, qui es possédé, si tu veux que le Seigneur te délivre, approche-toi. Et le Seigneur te délivre. Et le démon, tu sors. Qu'il y en ait un, qu'il y en ait plusieurs, j'oserais dire, ça relève du détail. Voilà. Nous sommes plusieurs. Légion est notre nom. Dehors. Voilà. La confiance en Dieu nous amène aussi à tenir des positions qui ne sont pas toujours évidentes. Esther, elle est debout dans la cour, et elle sait très bien que, suivant le geste du monarque, elle est accueillie ou elle est mise à mort. Parce qu'à cette époque-là, c'était le règne et le pouvoir absolu, voilà, qui ne s'est plus reproduit dans l'histoire des monarchies. Juste une petite parenthèse, tout le monde a voulu, dans l'histoire, avoir le règne tel qu'il était à ce moment-là, Nebuchadnezzar. Les jardins suspendus de Babylone, le pouvoir absolu. Même Rome, même César n'aura pas le pouvoir absolu. Je vous renvoie vers Astérisque et tout le reste. Vous verrez qu'il y avait le Sénat, et etc., etc. Même Napoléon n'avait pas le pouvoir absolu. Et cette femme se tient devant cet homme qui a le pouvoir absolu. Mais elle se tient. Parce qu'elle a prié. Parce qu'elle a dit à Mardoché, vous allez prier, jeûner pour moi. Et elle se tient. La foi nous amène à tenir des positions dans le calme et la confiance. Et vous vous dites, c'est surprenant que je reste calme et confiant. Parce que je me connais, je devrais trembler normalement, logiquement, comme une feuille. Mais je suis calme et confiant, c'est l'effet de la confiance en Dieu, de l'action de l'esprit, la maîtrise de soi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un précieux trésor, la maîtrise de soi. Vous vous rendez compte, enfin, bien sûr qu'on s'en rend compte, le péché nous a fait sauter nos, comment on pourrait dire, appeler ça, nos fusibles. Nos fusibles de sécurité. Ça veut dire que en nous, rien qui fonctionne normalement. On monte dans les tours, on se met en colère. Parce qu'on ne se maîtrise pas, on ne se contient pas. Et l'action de l'esprit vient nous remettre tous les organes de sécurité. Hop, tu pourras te mettre en colère jusque-là, mais clac, arrivé là, c'est comme si ça ne te faisait plus rien. Clac, la petite manette, clac. Vous pouvez en dire, vous pouvez en faire, vous pouvez en rajouter. Je ne monterai pas dans les tours comme je montais dans les tours. Ça ne sert à rien, la maîtrise de soi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, la maîtrise de soi. Je crois que ce serait bien peut-être que on demande au Seigneur, d'une manière plus précise, mais ça ne peut être que personnel, individuel, qu'on demande au Seigneur de nous amener à progresser sur quelques-uns des points du fruit de l'esprit. Alors, pour mémoire, on va les relire dans Galates 5, 22. On ne va pas prier pour tous, mais peut-être que pour un. Et pas ce soir, chacun chez soi. Et puis, c'est à chacun donc de l'estimer ensuite et de le mesurer, le progrès. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous serait en défaut, en tout cas à sa propre appréciation, à ce niveau-là? Et ce n'est pas l'amour qui consiste à aimer ce qui nous aime. Celui-là n'est pas trop difficile. C'est l'amour qui consiste à aimer, point. La joie. Et ça ne consiste pas à se raconter des blagues pour rire. C'est à l'intérieur, un état intérieur. La paix. entre parenthèses, surpasse toute intelligence. La patience, est-ce que quelqu'un d'entre nous estimerait être en défaut de patience? Vous mettez le curseur de 1 à 10 et vous estimez où vous êtes. Hein. Voilà. Ce n'est pas aux autres de dire où vous en êtes à ce niveau-là. Hein. Voilà. La bonté, la bienveillance, la foi, la confiance en Dieu, la douceur, la maîtrise de soi. Et si un point vous a parlé, eh bien, estimez de 1 à 10 où vous en êtes et dites, Seigneur, aide-moi à monter. Si vous êtes à 8, eh bien, osez 10. Qu'est-ce qui empêche qu'on arrive à la mesure de la stature parfaite de Christ? Et quand, pour un, vous serez arrivé à 10, et après, il y a les autres. Hein. Voilà. Ou alors, vous les attaquez tous de front. Seigneur, je suis à 0 pour tous. Remarquez, celui qui est à 0 pour tous, il ne peut que progresser. Ça, c'est sûr. Hein. Je suis à 1 ici, à 2 là-bas, à 3 là-bas. Bon, vous voulez faire monter lequel? Et quelque part, vous avez l'embarras du choix. Et puis, ceux qui sont autour de vous, écoutez-les. Si de temps en temps, ou assez souvent, vous entendez qu'ils vous disent « Mais toi, tu n'as pas de patience », c'est peut-être celui-là qu'il faut regarder pour le moment et demander à Dieu de nous donner de la patience. Alors, je termine, si vous faites ce genre de prière, ne soyez pas étonnés d'avoir les situations qui vont avec. Parce que c'est comme ça que ça marche. « Seigneur, augmente-nous la foi !» Eh bien, on va traverser des épreuves. Non pas parce que Dieu se plaît à nous faire traverser des épreuves, mais c'est au travers de l'épreuve que notre confiance en Dieu se manifeste et que notre foi augmente. Voilà. C'est comme ça qu'on se fortifie. C'est comme celui qui dirait « je voudrais physiquement être plus fort ». Eh bien, va commencer à soulever des poids. Va travailler. Si tu restes assis sur ta chaise longue, musculairement parlant, tu ne vas pas progresser. Eh bien, si vous voulez que la patience augmente, c'est pas en restant sur la chaise longue, là où rien ne vous arrivera jamais, que la patience va augmenter, la maîtrise de soi, etc. Vous voulez la maîtrise de soi, vous prenez la voiture, et là, ça marche bien. Demain, c'est journée noire. Et vous y allez, tranquille, et vous faites Arles-Nîmes aller-retour. Voilà. Maîtrise de soi. Vous allez voir de tout. De tout. Avant-hier, je rentrais au village, 50. Boum, je me mets à 50. J'ai bien fait. La voiture de devant, au bout d'un moment, sans clignotant, elle se met en travers pour rentrer chez elle, mais elle a le portail au ras de la route. Donc je m'arrête. Derrière, elle s'arrête et puis j'entends POUM ! La troisième rentrée dans la seconde. Je dis oula. J'ai pas osé dire merci Seigneur, parce que quelque part, ça fait tant pis pour l'autre. Mais... Et c'est là où vous dites si ça avait été POUM dans la mienne. Je vais pulvériser l'autre parce qu'il s'est arrêté sur la route parce que son portail n'était pas ouvert. À mon avis, ça, c'est une aberration. Vous êtes sur une voie qui circule et vous vous mettez en travers sur la route, le temps que votre portail avait la lumière, qui s'ouvre. À l'heure où il y a un monde pas possible sur la route, c'est sûr que derrière, ça va cartonner. Voilà. Eh bien, si ça vous arrive, maîtrise de soi. Là, vous sortez et vous avez l'embarras du choix. Soit c'est celui de devant qui prend, soit c'est celui de derrière qui prend. Soit c'est personne qui prend. C'est à vous de gérer la situation. Et là, vous allez voir la maîtrise de soi. Et méfiez-vous. Parce que c'est ce que je me dis aussi. De ne pas se laisser aller et de revoir que la personne, le dimanche, elle vient à l'église. Oui, en tant que prédicateur, on est mal. Si dans la semaine, vous l'avez béni autrement qu'avec les mains, et que le dimanche, elle vient à l'église, parce que c'est quelqu'un qui est invité et qui découvre, là, vous avez une honte terrible, soit parce que c'est quelqu'un qui vient aménager et qui dit, eh bien, j'ai cherché l'église, je suis heureux d'arriver au milieu de vous. Voilà. Méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que la personne, peut-être que c'est le moyen que Dieu utilise, pourquoi pas, pour que vous rentriez en contact avec elle. Pour, à un moment donné, lui parler du Seigneur. Hein. Allez savoir. On le dit à certaines personnes, je ne sais pas pourquoi j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas guéri, j'ai été à l'hôpital. Je n'ai pas demandé une chambre seule. Et finalement, j'ai pu rendre témoignage au voisin ou à la voisine. Pourquoi on le dirait là, en disant quelque part que c'est méritoire, dans ce sens où, ben, Seigneur, merci, parce que cette épreuve m'a permis de parler à quelqu'un. Et dès qu'il s'agit de la voiture, là, c'est plus du tout le même raisonnement, c'est plus du tout le même langage. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as permis de lui parler de toi. Je ne l'ai pas encore entendu celle-là suite à un carton, suite à un accident de voiture, parce que ma voiture, vous rendez compte, ma voiture, il n'y a pas une tache, il n'y a pas une rayure. Et elle était en train de se maquiller. C'est ce qui m'est arrivé. Je m'arrête au feu rouge. Je me suis dit, direct, hein, un choc pareil, je me suis dit, c'est pas possible, elle ne m'a pas vu. Et quand son père est arrivé, il dit, mais c'est la deuxième voiture en 2 mois. Tu arrêtes de te maquiller. Ah. Et oui, il est en train de se faire les yeux. Voilà. Hein. Alors, je vous le dis en plaisantant, mais pour la maîtrise de soi, attendez-vous quand même à des situations pas banales. Parce que c'est là où la maîtrise de soi va être mise à l'épreuve, véritablement. La confiance en Dieu nous amène à être plus prudents et plus intelligents. Parce que c'est un effet de la confiance en Dieu. Je vais le dire un petit peu sous forme de plaisanterie. Quand je ne connaissais pas Dieu, j'étais peut-être pas, on va le dire comme ça, des plus inspirés dans certaines situations. Voilà. Et peut-être que ça devait chagriner les autres en disant, mais quand même, des fois, il n'est pas très fut-fut, hein, on va dire ça comme ça. Et maintenant, je donne mon cœur au Seigneur. Mais il est mon Père, quand même. Et lui, peut-être qu'il s'est dit aussi, c'est vrai que de temps en temps, tu n'étais pas très fut-fut. Mais je vais te renouveler dans l'intelligence. Je vais te donner de la sagesse. Tu ne parleras plus comme tu parlais dans ces situations-là. Tu ne plaisanteras plus comme tu plaisantais à un moment donné. Et surtout, ça va t'amener à comprendre les choses, la parole. Voilà. On est émerveillé quand on entend des jeunes qui disent « Oh, j'ai prié à l'examen, le Seigneur m'a permis de résoudre le problème. » Vous appelez ça comment, vous? Ça s'est passé au niveau de l'intelligence. Pourquoi est-ce que ce serait ponctuel? De temps en temps, on a la lumière. King. Et puis le reste, nien. Moi, je crois que non. Le Seigneur est celui qui se plaît à nous donner la lumière continue. Et ne riez pas. En permanence. Et nous amener à être plus intelligents, plus sages. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est écrit ou non? C'est quand même écrit. Soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et tout ça relève d'un dénominateur commun, c'est la confiance en Dieu, qui permet à Dieu de faire son œuvre dans ma vie. J'oserais dire que si la génétique a établi que vous êtes comme ça, mon Dieu, lui, il s'exonère de ce qui est figé pour faire du miracle. D'accord? Pourquoi le miracle de Dieu serait limité à l'aspect physico-chimique des choses? C'est-à-dire, l'homme à la main sèche, il est guéri. On va appeler ça physico-chimique. Voilà. Pourquoi ça ne serait pas aussi intellectuel? Capacités que je n'avais pas, des compétences que je n'avais pas, des lumières, excusez le terme, que je n'avais pas. Dieu a qualifié ce qu'il a utilisé pour construire son temple. Il leur a donné de l'intelligence, il leur a donné de la sagesse. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ce n'est pas parce qu'il est écrit qu'il a choisi les choses faibles et folles du monde qu'il faut en faire une vertu. Folie. Le manque de force et le manque de sagesse. Au contraire, soyons à l'image de Dieu. Voilà. Et je terminerai avec ça. La victoire qui triomphe du monde, 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alors que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous aide dans tous ces domaines de notre vie et à partir de la confiance que nous pouvons manifester en lui, eh bien que nous voyons les effets tout à fait concrets de l'intervention de Dieu.